En France, on est soit de plus en plus riche, soit de plus en plus pauvre, et il semblerait que ce constat se décline aussi en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Joëlle Chenet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes commissaire à la lutte contre la pauvreté en PACA. Tout d'abord, question très simple. Que fait une commissaire à la lutte contre la pauvreté ?
Une commissaire à la lutte contre la pauvreté, elle fait de la coordination interministérielle pour que les ambitions de la stratégie pauvreté qui ont été posées par le président de la République en septembre 2018 se mettent en œuvre avec tous les services de l'État, tous les opérateurs de l'État, mais également elle anime un réseau d'acteurs qui se mobilisent sur ces questions. Il y a plusieurs centaines d'acteurs qui en PACA sont mobilisés et travaillent sur ces questions relatives aux engagements qui ont été pris à la fois pour prévenir la reproduction de la pauvreté et pour lutter contre la pauvreté par le retour à l'emploi.
Alors, à partir de quand on est estimé pauvre ?
Alors, être pauvre, bien sûr, la pauvreté, elle est multifactorielle, elle se décline de différentes façons, mais il y a un indicateur que l'on suit avec attention, c'est celui du seuil de pauvreté et de la part de population qui est sous seuil de pauvreté. En PACA, ça concerne 800 000 personnes, 17,3% de la population qui vit sous ce seuil de pauvreté, et le seuil de pauvreté en 2021, il s'établit à 1050 euros pour une personne seule et à quelque chose comme 2230 euros pour une famille avec deux enfants.
Vous l'avez dit, hein, le taux de pauvreté en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est 17,3% contre 15,1% de moyenne en France.
Même 14,6% en fait.
14,6%.
On est bien au-dessus.
Qu'est-ce qui explique cette différence de moyenne française et de moyenne régionale ?
Ce qui l'explique, ces différents facteurs, c'est sans doute des situations qui sont très concentrées dans les métropoles et qui avec des populations qui n'ont pas forcément accès à l'emploi ou qui n'ont pas le bagage culturel pour pouvoir se mouvoir dans la société comme le font les personnes qui sont bien intégrées et bien incluses. C'est sans doute un des facteurs. Et puis la pauvreté en France pour sortir de la pauvreté, c'est très compliqué. On dit qu'il faut 6 générations pour un enfant pauvre, d'un enfant d'une famille pauvre, pour sortir de cette situation-là. Alors, il y a des contre-exemples, bien évidemment. Mais en tout cas, l'ascenseur social ne marche pas très bien en France, c'est clair. Et une des ambitions de la stratégie pauvreté, c'est de réussir à émanciper, finalement, les personnes et pour en sortir par elles-mêmes.
Alors, on va en parler un peu plus tard, hein, de cet ascenseur social, mais j'aimerais d'abord vous poser une question sur le seuil de pauvreté, notamment dans les Alpes du Sud. Deux départements, les Hautes-Alpes et les Alpes de Haute-Provence, qui sont deux territoires montagnards, provençaux également. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une cartographie de la pauvreté avec des territoires ruraux qui sont plus touchés que les territoires urbains ?
Je dirais que plus touché, si on regarde juste les statistiques, ça n'est pas le cas. Alors effectivement, les Alpes de Haute-Provence ont un taux de pauvreté qui est plus important que celui des Hautes-Alpes. Les Hautes-Alpes se situent sous la moyenne nationale, alors que les Alpes de Haute-Provence se situent au-dessus avec un taux de pauvreté de 16,8.
Et pour les Hautes-Alpes, c'est combien ? Moins de 14 ?
C'est 13,9, un peu moins de 14%, oui. Mais on le sait bien, la nature des problèmes est différente dans les zones rurales. On sait bien que, par exemple, il y a des problèmes de mobilité pour avoir accès à l'emploi. Il y a des problèmes aussi d'infrastructures présentes sur les territoires pour permettre d'accueillir les enfants, les jeunes. Donc, on est sur finalement des situations qui sont un peu différentes de ce qu'on peut trouver en territoire urbain. Et les zones de revitalisation rurale qui existent depuis un grand nombre d'années et qui ont vocation à faire venir des entreprises, finalement cartographient ce manque d'infrastructures et le manque finalement d'acteurs économiques qui sont là pour permettre à chacun d'avoir un emploi.
Est-ce qu'il y a un âge pour être pauvre ?
Est-ce qu'il y a un âge pour être pauvre? Non, il y a pas d'âge. Je crois que, vous savez, un enfant de 3 ans, son niveau de langage à 3 ans va probablement être déterminant pour la suite de sa scolarité et sa capacité à s'affranchir des déterminants sociaux et puis d'avoir un parcours qui lui permette de sortir de la situation de sa famille. Donc, les enfants pauvres, c'est un vrai sujet. Pendant la crise alimentaire, on l'a bien vu. Alors, ça a été particulièrement évident dans les zones urbaines. Il y a des familles qui n'arrivaient pas à nourrir leur enfant. Et à cet égard, d'ailleurs, je profite de ce temps de parole pour redire aux maires ruraux qui sont bénéficiaires de la dotation des zones de revitalisation rurale que l'État offre 3 € par repas offert pour des enfants qui vivent sous le seuil de pauvreté si on les invite à manger à la cantine pour 1 €. Et je suis à la disposition des maires qui, entendant ce sujet-là, voudrait mettre en œuvre cette mesure qui est importante.
Vous le disiez il y a quelques instants, l'ascenseur social est en panne en France. On met 6 générations pour sortir de la pauvreté. Comment on peut agir aujourd'hui contre la reproduction de la pauvreté et surtout, qui peut agir contre cette reproduction ?
Alors le qui, je pense que c'est une œuvre collective et que effectivement à la fois les pouvoirs publics mais aussi les acteurs privés peuvent agir pour lutter contre cette reproduction. Agir auprès des jeunes enfants est un axe qui est extrêmement important et on voit bien que des enfants qui vivent en accueil qui ont la chance d'avoir l'expérience d'accueil collectif. Et les CAF, avec les communes, font des efforts pour offrir des accueils collectifs pour les enfants des parents qui sont en voie de réinsertion, qui font un parcours vers l'emploi. L'accueil collectif permet aux enfants de sortir de leur milieu d'origine et finalement de s'émanciper aussi en étant mieux, je dirais, socialisés, en ayant une autre acquisition du langage, en vivant autre chose finalement. Agir auprès des adolescents est également extrêmement important et je voudrais mettre l'accent sur l'obligation de formation. Aujourd'hui, la loi prévoit qu'un jeune entre 16 et 18 ans ne peut pas rester sans rien faire. Et 2 acteurs sont mobilisés pour repérer les jeunes qui seraient dans une situation de rien, je dirais. C'est-à-dire ni en emploi, ni en formation, ni dans un engagement type du service civique. Mmh. Et l'éducation nationale et les missions locales se mobilisent effectivement pour travailler avec ces jeunes et les mettre sur la voie d'un projet qui soit personnel. Et puis, on a un grand plan, le plan Un jeune, une solution, qui mobilise effectivement l'ensemble des acteurs, je dirais, institutionnels et aussi les entreprises pour favoriser l'intégration des jeunes dans l'apprentissage. C'est aujourd'hui, dans les Alpes de Haute-Provence, il y a 1100 jeunes qui ont été embauchés en apprentissage. On a un boom de l'apprentissage et ça, c'est vraiment formidable parce que je pense, et puis hier, nous avons eu une conférence régionale qui montrait que la connaissance des jeunes du monde de l'entreprise est quelque chose qui doit s'apprendre très, très tôt et c'est aussi un moyen finalement de se projeter dans l'avenir et étudier en apprentissage, c'est aussi concilier le pratique et le théorique et c'est quelque chose qui va bien mieux à bien des jeunes que des simples cours théoriques.
Donc pour résumer finalement, Joëlle Chenet, on peut dire que pour sortir de la pauvreté, c'est l'apprentissage, c'est la formation et donc là, les entreprises ont aussi un rôle à jouer dans l'insertion professionnelle et dans l'inclusion.
Oui, tout à fait, et elle le joue. Mais je reviens également sur la question des jeunes enfants. Il est très important, effectivement, que les jeunes enfants soient pris en charge dans du collectif. Et là, les collectivités, les communes ont un rôle aussi dans l'animation de la vie sociale, qu'elles jouent d'ailleurs la plupart du temps.
Merci beaucoup, Joëlle Chenet, d'avoir été avec nous ce matin sur Alpe 1. Et je rappelle que vous êtes commissaire à la lutte contre la pauvreté en PACA. Merci.
Merci à vous. Au revoir.